Archipel francilien,
une collection de voyages d'architecture proposée par les CAUE d'Île-de-France
avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la région Île-de-France.
On se trouve chez moi, à La Défense, au sein même du boulevard circulaire, puisqu'il y a des gens qui habitent à La Défense aussi. Je suis Jean-Philippe Hugron, je suis journaliste, critique d'architecture, j'ai une formation d'historien de l'architecture et je suis particulièrement intéressé par les tours, les gratte-ciels et l'histoire du quartier de La Défense. Depuis ma fenêtre, j'ai la chance de pouvoir voir une très grande partie de La Défense. On peut voir l'Arche de La Défense, on peut voir la plupart des tours. En fait, l'appartement se situe dans un immeuble qui est parallèle à l'axe historique. L'axe historique, c'est cette grande perspective qui part depuis le Louvre, qui ensuite traverse le jardin des Tuileries, qui passe par la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe, bien entendu, la place de l'Étoile, qui se poursuit encore à l'ouest avec le rond-point de la Défense qui est l'étape ultime. Et ce rond-point de la Défense était marqué par un groupe sculpté qui existe encore aujourd'hui sur la dalle de la Défense et qui représente la Défense de Paris face à l'assaut des troupes prussiennes en 1870. L'histoire du quartier de la Défense commence avec la construction du CNIT qui est livré en 1958. Le CNIT est construit pour répondre à un manque d'espace d'exposition à Paris. Jusqu'à ce moment-là, seul le Grand Palais peut accueillir des grands événements, des grands salons. Et cette adresse est trop exiguë pour recevoir des grands appareils, toutes ces nouvelles technologies qui peuvent apparaître dans les années 50, dans les années 60. Et le CNIT est conçu pour justement recevoir des événements de plus grande ampleur. Néanmoins, quand le CNIT est pensé, le quartier d'affaires n'est pas encore imaginé, il n'est pas encore question de construire une dalle, il est simplement question de poursuivre l'axe historique et surtout de moderniser un quartier qui est jusqu'à présent dominé par des industries et aussi par des bidonvilles qui commencent à émerger en marge de ces quartiers ouvriers et de ces zones industrielles. Ces bidonvilles sont principalement habitées par des populations qui arrivent du Portugal et qui arrivent d'Espagne, qui fuient les dictatures salazaristes et franquistes. Le premier plan d'aménagement de la Défense apparaît en 1964. Il est question à cette époque de construire un nouveau quartier d'affaires sur dalle, une extension de la ville, une extension de Paris sur dalle, avec des tours. Le plan de 1964 est caractérisé par un urbanisme de dalle, par des tours qui sont toutes similaires les unes aux autres. Elles sont toutes identiques. C'est typiquement français, c'est une volonté d'ordonnancer l'urbanisme, de la même manière que Haussmann avait ordonnancé Paris. La modernité, même si elle fait rupture avec le passé, conserve cet idéal d'organisation de la ville et d'ordonnancement de la ville. Ces tours ont connu des difficultés, elles sont peu rentables, les investisseurs rechignent à les développer, les promoteurs eux aussi, et les occupants aussi. Donc ce modèle de tour est rapidement abandonné. Elle cède la place au début des années 70 aux tours de deuxième génération. L'établissement public d'aménagement de la Défense décide à cette époque de renoncer à cette organisation très rationnelle du plan d'aménagement de la Défense et laisse la liberté aux investisseurs et aux architectes de concevoir les immeubles qu'ils veulent. Et à cette époque-là, les formes changent, les formes évoluent, on a des formes cruciformes, on a des formes en tripode. Ce sont des formes complètement différentes, on n'est plus dans cette forme de parallépipède. On est vraiment dans un exercice de style qui permet des tours beaucoup plus hautes et des plateaux beaucoup plus grands. L'urbanisme de dalle prône la séparation des circulations. L'enjeu pour les architectes et les urbanistes de cette époque-là, c'est de créer de vastes zones piétonnes. Il faut se remémorer les conditions dans lesquelles ces architectes ont évolué. Ce sont des architectes qui ont été formés dans les années 20-30 par des maîtres qui eux-mêmes ont été formés au début du XXe siècle. Paris, à cette époque-là, est une ville dangereuse, non pas par la criminalité, mais la rue est elle-même dangereuse parce que de multiples circulations s'y côtoient, des circulations hippomobiles, des circulations automobiles qui apparaissent, des circulations piétonnes. Toutes sortes de mobilités existent à cette époque-là, mais elles coexistent de manière anarchique. Et donc, la rue est dangereuse. L'ambition des urbanistes et des architectes à cette époque-là est de séparer les circulations piétonnes des circulations automobiles. Les circulations automobiles en dessous et les circulations piétonnes au-dessus. Donc l'objectif est de créer une sorte de sursol, qu'on va appeler ensuite une dalle, au-dessus du sol naturel. Et dans l'intervalle entre le sol naturel et la dalle, vous avez à peu près deux niveaux en règle générale. Et sur ces deux niveaux, vous pouvez créer des routes, des voies d'accès, des voies de livraison. Vous pouvez aussi créer une autoroute. Il y a une autoroute sous la dalle de la Défense. Vous avez aussi un métro. Vous avez des trains qui circulent. Vous avez un RER qui circule sous la dalle. Vous avez également des parkings et des espaces de stockage. Si cet urbanisme-là commence à être théorisé dans les années 30, il apparaît seulement à la fin des années 50, début des années 60. La première grande opération d'urbanisme sur dalle, c'est l'opération du Front de Seine à Paris, où il est question, à la place d'anciennes usines, qui seront entièrement détruites, de créer une dalle sur laquelle de grands immeubles, de grandes tours résidentielles seront créées. À cette époque-là, la ville, Paris notamment, souffre de densité. Densité de population, densité de construction. Il y a des problèmes d'accès à l'air, d'accès à la lumière, des maladies se développent. Aujourd'hui encore, à la lumière de la pandémie de Covid, on se pose ces questions-là sur la densité de population, si elle est un risque. Dans les années 20, des maladies se propagent. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole est un phénomène assez marquant et traumatisant. Et les architectes cherchent à créer les conditions de confort, d'accès à la lumière et d'accès à l'air. Et pour avoir accès à l'air et à la lumière, les tours sont une typologie architecturale parfaite. La Défense devrait être considérée comme une utopie urbaine. Des grands ensembles urbains et des grandes villes ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité, Chandigarh, Brasilia, Le Havre, car ces villes représentent des grands principes urbanistiques édictés au XXe siècle. Et la Défense ne fait pas partie de ces villes reconnues pour leur qualité. Néanmoins, la Défense est le plus grand ensemble jamais construit sur dalle, et la Défense pourrait tout à fait répondre aux critères fixés par l'UNESCO pour être reconnue comme un patrimoine remarquable. Si la Défense est une utopie urbaine, elle continue de vivre, elle n'est pas un ensemble figé. Il y a eu des tours que l'on dit de première génération, des tours de deuxième génération et ensuite encore de troisième, de quatrième génération. Il y a eu un plan de renouveau qui a été décidé en 2005. Aujourd'hui, on parle encore de compléter la Défense, de l'agrandir. Des tours sont détruites pour être remplacées, des façades sont déposées pour être rénovées ou mises au goût du jour. Donc la Défense, en soi, c'est un quartier qui continue de vivre. Certes, on peut déplorer que cet ensemble ne soit pas préservé ou reconnu, mais néanmoins c'est un quartier de ville extrêmement dynamique et qui continue de poursuivre son histoire. Et de très grands témoignages d'architecture contemporaine y sont développés. J'aime habiter la Défense parce que c'est un paysage qui est sans cesse en cours de transformation. C'est un paysage sans cesse changeant, alors que Paris est une ville relativement immuable. C'est aussi l'impression d'être dans une maquette d'architecture géante. C'est ce foisonnement urbain et architectural, en plus d'une qualité de vie qui est assez remarquable. C'est un quartier très accessible, c'est un quartier dynamique. Il y a des commerces, il y a des cafés, il y a de nombreux espaces verts, il y a des espaces publics très généreux. Ce quartier commence à vivre d'autres choses que de ses activités tertiaires.